Donc, après le chapitre consacré à la certitude et à la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, al-yaqin wa tawakkul, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, enchaîne avec ce nouveau chapitre consacré à la droiture, al-istiqama. Dans les cours précédents, nous avons vu que la certitude véritable, al-yaqin, n'est pas une simple connaissance théorique, ni une affirmation abstraite, mais un état du cœur qui transforme la manière dont le croyant perçoit la réalité, le monde dans lequel il vit. Cette certitude, lorsqu'elle est authentique, elle libère le serviteur de la dépendance aux créatures. Elle l'élève au-dessus de la peur des causes apparentes et l'ancre dans une confiance profonde envers son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Elle se manifeste particulièrement lorsque les situations deviennent étroites, lorsque les moyens humains semblent insuffisants et que le cœur n'a plus d'autre refuge qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous avons également vu que cette confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, ne signifie pas l'abandon des causes. Au contraire, car le croyant agit, il cherche, il œuvre, tout en sachant que l'effet réel de ces causes appartient à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Cette compréhension, elle produit un équilibre intérieur remarquable, où l'action est présente, mais où le cœur demeure attaché au Créateur tabaraka wa ta'ala et non aux moyens. C'est précisément ici qu'apparaît toute la sagesse de l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Étant donné qu'après avoir établi dans le cœur du croyant la certitude et la confiance en Allah tabaraka wa ta'ala avec les chapitres précédents, il introduit immédiatement après le chapitre de la droiture, al-istiqama. Car la certitude, al-yaqin, si elle est authentique, elle ne peut rester sans effet. Elle doit nécessairement se traduire dans la conduite, dans les choix, dans les paroles et dans les actes. Autrement dit, le yaqin, comme nous l'avons vu précédemment, il produit inévitablement le tawakkul à Allah Azza wa Jal. Et cette confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, elle produit inévitablement l'istiqama, la droiture. La droiture est donc le fruit visible de la certitude intérieure. Celui qui connaît Allah réellement, qui place sa confiance en lui exclusivement, ne peut que s'efforcer de marcher sur son chemin droit, de s'y maintenir et de lutter contre toute forme de déviation. C'est pourquoi ce chapitre, Al-Istiqama, n'est pas un chapitre isolé dans le livre. Il constitue au contraire la conséquence logique, naturelle et pédagogique des chapitres précédents. Comme nous l'avons d'ailleurs déjà souligné, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala n'a pas ordonné son livre de manière anodine, comme il ne se contente pas d'enseigner des notions spirituelles abstraites à travers ce livre. Celui qui observe la méthodologie employée par l'imam Nawawi dans la compilation de ce livre comprend qu'il construit une éducation progressive du cœur et du comportement. Il commence tout d'abord par corriger la relation du serviteur avec Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il montre comment cette relation doit se traduire concrètement dans la vie quotidienne, par la droiture, la constance et la fermeté sur la voie de la vérité. Et c'est là l'une des nombreuses raisons qui rendent cet ouvrage si important, si profond et si incontournable. C'est dans ce cadre que, comme à son habitude, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala ouvre ce chapitre par des versets, puis des hadiths qui vont nous montrer de manière méthodique et progressive, ce qu'est réellement la droiture al-istiqam, sur quoi elle repose, comment elle se construit et quels sont ses effets dans la vie du croyant. Ainsi, l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala ouvre ce chapitre avec un premier verset. Il nous dit: قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. Suis la voie droite conformément à nos ordres. Et comme nous l'avons déjà dit, ce choix de l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, en sélectionnant ce verset et en le plaçant en premier lieu, ce n'est pas un choix anodin. Il s'agit du verset le plus explicite et le plus englobant concernant l'istiqama, car il contient un ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ce qui a donc motivé l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala à le placer en premier, c'est qu'il réunit en quelques mots l'ensemble de la notion de droiture, d'istiqama. Il ne se contente pas d'ordonner la droiture, mais Allah tabaraka wa ta'ala en fixe immédiatement le cadre et la norme. Kama umirt, conformément à nos ordres. Ainsi, ce verset établit dès le départ que la droiture n'est pas laissée à l'appréciation personnelle, ni à l'intention seule. Ce n'est pas parce qu'une personne est bien intentionnée qu'elle fait bien. Ce n'est pas parce qu'une personne pense faire bien qu'elle fait bien. La droiture est strictement liée à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la voie tracée par Allah Azza wa Jalla. De plus, ce verset contient à la fois l'ordre et la limite. Puisque la suite du verset, après Allah Azza wa Jalla dit « Wala tatraou » et ne transgressez pas. Il englobe donc l'ensemble du chemin. L'engagement dans la droiture et la préservation contre toute forme de dépassement ou de déviation. C'est pourquoi ce verset constitue une base méthodologique pour tout le chapitre. Tout ce qui sera mentionné ensuite, que ce soit dans les versets ou les hadiths, revient à expliciter, à détailler, à illustrer cet ordre fondamental de se tenir droit sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, conformément à ce qu'il a prescrit. Allah Azza wa Jal ordonne ici à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Fastaqim kama umirt » « Suis la voie droite conformément à nos ordres » et cette formulation est d'une précision remarquable car elle ne se contente pas d'ordonner la droiture de manière générale mais elle la conditionne à une norme « Kama umirt » « Conformément à nos ordres, à ce qui t'a été ordonné » Cela signifie que la droiture ne repose ni sur l'émotion, ni sur l'habitude, ni sur l'effort personnel, mais qu'elle doit être conforme à la révélation, à la voie transmise par Allah tabaraka wa ta'ala à ses messagers. C'est pour cela que ce verset est considéré par les savants comme l'un des versets les plus exigeants du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en effet le plus pieux des hommes envers Allah azza wa jalla, et celui qui le craignait le plus. Et il méditait le Coran comme il se doit. C'est pour cette raison que certaines sourates du Coran, comme c'est le cas de sourate Hud, de laquelle est tiré ce verset, qui ont laissé sur lui une trace visible. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ya Rasulallah, qad shibta » au messager d'Allah, on voit dans ta chevelure et dans ta barbe des poils blancs. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Mais ce qui a motivé Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu à dire cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il avait vu dans les cheveux et la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam des poils blancs avant l'âge habituel. Comme si demain, une personne avait des poils blancs dans sa barbe ou dans sa chevelure à l'âge de 20 ans. C'est quelque chose d'inhabituel. Une personne, en revanche, qui les a à l'âge de la cinquantaine ou de la soixantaine, c'est quelque chose de commun. Donc Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu s'est étonné et a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est surprenant, c'est que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a soulevé cela alors que, comme il a été mentionné dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa chevelure et sa barbe ne contenaient pas plus d'une vingtaine de poils blancs à son décès. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce blanchiment restait très limité. C'était un nombre restreint de cheveux blancs, ne dépassant pas une vingtaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors « Shayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha shamsu kuwirat » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ce sont surat Hud, al waqi'a » Al-Mursalat, Amma yatasa'alun et Idha shamsu kuwirat qui ont fait pousser chez moi des poils blancs. Cela signifie que ces sourates, en raison de leur contenu, comme l'expliquent les savants de l'exégèse, elles ont été la cause de cet effet. Et ici, ça nous apporte, ou ça nous amène à une réflexion. On voit que celui qui médite véritablement sur le Coran voit ses effets sur sa propre personne. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr qu'ici, ce qui a fait pousser chez lui des poils blancs, c'est ces sourates et leur contenu. Celui qui médite donc véritablement le Coran doit voir les effets du Coran sur sa propre personne. Donc ce verset pose le fondement méthodologique de tout le chapitre. La droiture, al-istiqama, est une conformité à l'ordre divin. Dans la croyance, comme dans l'action. Dans l'intention, comme dans le comportement. Elle est le chemin par lequel le serviteur avance vers Allah tabaraka wa ta'ala avec constance, lucidité et sincérité. Ensuite, après avoir posé l'ordre général de la droiture, al-istiqama, avec le verset précédent, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, mentionne un deuxième verset du Coran qui expose la réalité concrète et surtout les fruits d'al-istiqama, de la droiture. Il nous dit, « وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. Il nous cite donc ce verset de sourate Fussilat dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et suivre le droit chemin s'entendent dire par les anges qui descendent sur eux: soyez sans crainte, ne vous affligez pas, réjouissez-vous au contraire de l'heureuse annonce du paradis qui vous était promis. Nous étions vos gardiens ici-bas et serons vos compagnons dans l'au-delà, où tous vos désirs seront exaucés et tous vos vœux comblés, et où vous serez accueillis avec tous les honneurs par un Seigneur très clément et très miséricordieux. Ce passage vient donc compléter ce qui précède. Après l'ordre, l'explication. Après la voie, la conséquence. Après l'exigence, la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala commence ce verset en mentionnant le fondement. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Cette parole n'est pas une simple formulation prononcée par la langue, mais une affirmation complète de la foi, qui englobe le tawhid dans toutes ses dimensions. Reconnaître la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala, le reconnaître comme Seigneur, comme Créateur, comme Maître de toutes choses. L'adorer exclusivement, seul, sans associé, et croire en ses noms et attributs avec la vénération et la connaissance qui lui conviennent. C'est en ce sens que les savants expliquent que cette parole inclut toute la religion dans sa dimension de croyance. Ce verset est l'origine sur laquelle repose toute la droiture. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit « ثُمَّ اسْتَقَامُوا » Puis ils se sont tenus dans la droiture. Le terme « ثُمَّ » puis, il indique ici non seulement la succession, mais aussi l'exigence de continuité et de persévérance dans le temps. Cela signifie qu'après avoir affirmé la foi, ils sont restés fermes dessus. Ils ne se sont pas contentés d'un engagement ponctuel, mais ils ont maintenu cette foi dans leurs actes, leurs paroles et leurs comportements jusqu'à leur mort. Ainsi, la foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une droiture concrète. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est, comme l'ont dit les savants, composée de deux dimensions indissociables. La croyance et la législation. La science et les actes. Dire « Rabbun Allah », notre Seigneur est Allah, relève de la croyance. Tandis que « Thumma istaqamu » puis ils se sont tenus dans la droiture, relève de l'action et de la constance. Puis viennent les fruits immenses de cette droiture. Et ils apparaissent au moment le plus décisif de l'existence humaine. Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Cette descente a lieu au moment de la mort. Lorsque l'âme quitte le corps. C'est un moment redoutable. Où le serviteur passe du monde visible à l'invisible. C'est précisément à cet instant que se manifeste la valeur de la droiture. Les anges descendent, non pas pour effrayer, mais pour rassurer. Et ils adressent aux croyants une triple bonne annonce. D'abord, Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez aucune crainte et ne vous affligez pas. Il lui retire la peur de ce qu'il va rencontrer et la tristesse de ce qu'il laisse derrière lui. Puis ils ajoutent « Wa abshiru bil jannah » « Réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. » Cette annonce, elle transforme justement ce moment difficile en un moment de sérénité et d'espérance. Comme cela est rapporté dans le hadith authentique, l'âme du croyant est accueillie avec douceur et parfumée. Et elle sort du corps comme une goutte d'eau s'écoule. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ajoute « Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah » Nous étions vos alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cela signifie que cette assistance ne commence pas à la mort uniquement, mais qu'elle accompagne le croyant tout au long de sa vie. Allah Azza wa Jal le protège, le guide, le soutient dans ses choix. Puis il prolonge cette protection dans l'au-delà par l'honneur et la récompense. Ce sens est d'ailleurs confirmé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous dit « Allahu waliyu alladhina amanu » Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Cela nous montre que la droiture est entourée d'une assistance divine continue. Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala décrit la demeure finale en nous disant « Walakum fiha ma tashtahi anfusukum » Au paradis, donc, vous y aurez tout ce que vos âmes désirent. « Walakum fiha ma tadda'un » Et tout ce que vous demanderez. Il n'y a donc aucune privation, aucune limite, aucune frustration. Et enfin, Allah tabaraka wa ta'ala a conclu le verset en nous disant « Nuzulam min ghafur ar-rahim » Donc, qu'ils seront accueillis de la part d'un Seigneur pardonneur et miséricordieux. Ainsi, ce verset ne présente pas seulement la droiture comme une obligation, mais comme une voie complète qui mène à la tranquillité du cœur, à la protection divine et à la réussite éternelle. Il montre que celui qui a vécu dans la droiture ne sera jamais abandonné, ni ici-bas, ni au moment de mourir, ni dans l'au-delà. Ensuite, l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala mentionne un autre verset, il nous dit وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Il nous mentionne ce verset de sourate al-Ahqaf qui vient confirmer et renforcer le précédent en reprenant les mêmes fondements et les mêmes conséquences, mais avec une formulation qui accentue encore davantage la sécurité, la stabilité et la sérénité accordée à ceux qui se maintiennent dans la droiture. Allah Azza wa Jal répète la même structure. Il nous dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah tabaraka wa ta'ala » puis se maintiennent sur le droit chemin. Une affirmation de la foi qui est suivie d'une constance dans la droiture. Et cette répétition dans le Coran n'est pas redondante, elle est pédagogique. Elle insiste sur le fait que cette combinaison est la clé du salut. Il ne suffit pas de connaître la vérité, ni même de l'affirmer. Mais il faut s'y maintenir, persévérer dessus et mourir dans cet état. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait lorsqu'il disait « Innama al-a'malu bil khawatim » Les œuvres ne valent que par leur finalité. Ce qui montre que la constance, jusqu'à la mort, est essentielle. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Adore ton Créateur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et pour cela, la droiture ne se mesure pas à un moment isolé de la vie, mais à une trajectoire complète. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala affirme فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ils n'auront ni crainte, ni tristesse. Cette double négation, elle résume la paix parfaite et la sécurité totale. Ils n'auront aucune peur concernant ce qui les attend dans l'au-delà, ni aucune tristesse concernant ce qu'ils ont laissé derrière eux dans ce bas monde. Le cœur est alors libéré de toute angoisse, car il est sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette formulation, elle revient à plusieurs reprises dans le Coran pour décrire les croyants sincères. Ce qui nous montre que la droiture, l'istiqama, elle conduit à une sérénité réelle, non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans la vie d'ici-bas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'autre verset, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. Ceux qui ont cru sans mêler leur foi à une injustice, ceux-là auront la sécurité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala annonce أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. Ceux-là sont les gens du paradis. Et il nous dit خَالِدِينَ فِيهَا. Ils y demeureront éternellement. Cette éternité est la plus grande récompense car elle signifie qu'il n'y aura ni fin, ni interruption, ni diminution du bonheur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala précise جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. On récompense de ce qu'ils faisaient. Cette mention, elle rappelle que la droiture se manifeste dans les actes et que ces actes sont la cause de l'entrée au paradis par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde. Mais justement, comme cela sera précisé dans les hadiths qui suivent, ces actes ne constituent pas une contrepartie équivalente au paradis, mais une cause accompagnée de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants ont insisté sur ce point. L'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala explique d'ailleurs dans Madarij al-Salikin que les œuvres n'impliquent pas en elles-mêmes une récompense ni un châtiment. La récompense et le châtiment relèvent plutôt du pur bienfait et de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, les œuvres sont des causes, sans en être l'équivalent. Et après avoir donc mentionné les versets qui ont posé les fondements de la droiture et ont exposé les fruits, l'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala rapporte quelques hadiths sur le sujet et il commence par un hadith d'une concision remarquable qui résume à lui seul toute la religion tant dans sa dimension intérieure qu'extérieure. Il nous dit وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Il nous mentionne donc ce hadith rapporté par l'imam Muslim dans son recueil de hadiths authentiques d'après Abu Amr ou dans une autre version Abu Amra Sufyan ibn Abdillah رضي الله عنه qui nous relate avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, prodigue-moi un enseignement ayant trait à l'islam, après lequel je n'aurai plus besoin d'interroger d'autres personnes que toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors de lui répondre, dit, je crois en Allah, puis suis le droit chemin. Ce compagnon, Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu, s'adresse ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une demande qui révèle une grande intelligence religieuse et une sincérité profonde. Il ne demande pas une multitude de recommandations, ni des détails dispersés, mais il demande une parole globale, une règle complète, qui lui suffirait et qui le dispenserait de s'adresser à d'autres personnes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il cherche donc l'essentiel, le principe qui englobe tout. Cela nous montre l'importance dans la quête de la science et de la pratique religieuse. Contrairement aux erreurs que de nombreux jeunes font quand ils entreprennent l'apprentissage de la religion, ils ne demandent pas aux personnes expérimentées et anciennes dans cette quête. Au contraire, ils se lancent dans un océan sans aucune boussole et finissent par patauger. Certains abandonnent, d'autres se dispersent et passent des années et des années sans jamais acquérir ce qu'ils souhaitaient initialement. Alors qu'ici, ce compagnon, radiallahu anhu, il s'est concentré sur l'essentiel. Voilà comment toute personne qui débute en religion doit se comporter. Elle doit se concentrer sur l'essentiel. Elle doit commencer par ce qui est le plus fondamental et le plus nécessaire. On voit des personnes qui commencent à apprendre et ils veulent assister à des cours sur des sujets qui les dépassent. Non, le croyant, lorsqu'il débute, il doit solidifier les bases. Combien de personnes négligent la réforme du cœur, négligent la réforme du comportement? Donc on voit ici, à travers cette question de Sofiane ibn Abdillah radiallahu anhu, le comportement du croyant, du débutant, comment il chemine dans l'apprentissage. Il se concentre sur l'essentiel. La demande de ce compagnon, elle illustre parfaitement cette méthodologie. Aller directement à ce qui rassemble la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit donc à cette question en deux phrases extrêmement brèves, mais d'une profondeur immense. La première partie, lorsqu'il lui dit « قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ » dit « Je crois en Allah ». Cela englobe toute la foi. Elle inclut la croyance en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, al-rububiyya, dans son adoration et son culte exclusif, al-uluhiyya, et dans ses noms et attributs, al-asma wa sifat. Elle implique également la foi en tout ce qu'Allah a révélé, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin. C'est donc l'ensemble de la croyance authentique qui est résumé dans cette parole. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ dit « Je crois en Allah ». Les savants ont expliqué que lorsque le terme « dire » d'ailleurs est employé, comme c'est le cas ici, « قُلْ », lorsqu'il est mentionné sans restriction, il inclut à la fois la parole du cœur et celle de la langue, étant donné que, comme cela est détaillé dans les cours de croyance, le cœur a une parole et la langue a une parole. قَوْلُ الْقَلْبِ وَقَوْلُ الْلِسَانِ. Donc il ne s'agit pas d'une simple déclaration verbale, ça ne suffit pas de dire « je crois en Allah ». Il faut que cette conviction elle soit enracinée dans le cœur et qu'elle soit exprimée par la langue et accompagnée par les actes. Sans quoi, elle n'est pas complète. Un Allemand à qui on demanderait de répéter « la ilaha illallah » sans en comprendre le sens et sans y adhérer avec conviction, cette parole ne lui serait pas profitable. Voilà pourquoi il faut réunir ces trois piliers fondamentaux. Une conviction enracinée dans le cœur. L'exprimer par la langue et le traduire par les actes. Et la deuxième partie de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « ثُمَّ اسْتَقِمْ » puis « suis le droit chemin ». Et cela englobe toute la pratique. Elle signifie « demeurer ferme sur cette foi, en accomplissant les obligations, en délaissant les interdits et en persévérant dans cela jusqu'à la mort. » Comme on l'a vu précédemment, le terme « thumma », puis, il indique la continuité et la persévérance. Donc ce hadith correspond parfaitement à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu » ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah tabaraka wa ta'ala » puis suivre le droit chemin et reste ferme sur celui-ci. C'est comme une explication prophétique concise de ce verset. Il montre que la religion, elle repose sur ces deux fondements indissociables. Une croyance authentique et une droiture constante. C'est dans ce sens d'ailleurs que les salafs disaient « Al-Iman, qawlun wa a'tiqadun wa amal » La foi, c'est une parole, c'est une conviction et c'est des actes. Ce hadith, il en est l'illustration claire, car il rassemble la croyance dans « Qul » Amantu billah, dit je crois en Allah, et l'action dans thumma istaqim, puis suit le droit chemin. Et il confirme également que la droiture, al-istiqama, elle ne peut exister sans le tawhid, car c'est sur lui qu'elle se construit. De même que ce hadith indique que la droiture est une lutte continue contre soi-même, une persévérance dans l'obéissance, un maintien sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala malgré les difficultés. C'est d'ailleurs ce qu'indique la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala « Fastaqim kama umirt » ainsi que sa parole « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Donc ce hadith, il constitue un principe fondamental. À savoir, la religion entière revient à rectifier la croyance et à se maintenir dessus par la droiture jusqu'à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala en pleine soumission. Ensuite, l'imam al-Nawawi rahimallahu ta'ala vient compléter et parachever l'enseignement des textes précédents avec un second hadith, qui est le dernier, dans lequel il nous dit « وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ رواه مسلم. Donc, il nous mentionne ensuite Le hadith rapporté par l'imam muslim dans son recueil de hadith authentique, d'après Abu Huraira radiallahu an, qui nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez le droit chemin dans la mesure du possible, en gardant toujours le juste milieu. Et sachez que nul ne devra son salut à ses œuvres. » L'un des compagnons présents demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Pas même toi, messager d'Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Pas même moi, je ne serai sauvé que si Allah tabaraka wa ta'ala me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. » Ce dernier hadith apporte une dimension essentielle, la réalité de l'effort humain dans la droiture et la place centrale de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par dire « Qaribu wa saddidu ». Donc, il nous demande ici de suivre le droit chemin dans la mesure du possible en gardant toujours le juste milieu. Cela signifie que le croyant doit viser la justesse, c'est-à-dire la conformité exacte à la sunna. L'application des actes comme ils ont été prescrits, sans ajout ni diminution. C'est ce que les savants appellent as-sadad. As-sadad, comme justement nous le décrit l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans ce livre, il nous dit que c'est al-istiqama wal-isaba, la droiture et la conformité. Et il nous dit que al-muqaraba, le fait de s'en approcher lorsque maintenant on ne peut pas atteindre cet objectif de manière parfaite, alors de le faire avec justesse et de s'en approcher de la meilleure manière possible. Al-muqaraba, al-muqaraba, c'est justement al-qasd alladhi la ghuluwa fihi wa la taqsir. C'est une volonté qui ne soupçonne ni exagération ni laxisme. Donc l'atteinte de la rectitude parfaite, voilà ce que le croyant doit chercher. Mais comme cette perfection est difficile à atteindre de manière constante, il nous mentionne al-muqaraba qui est le fait de s'en approcher autant que possible. Si le serviteur ne parvient pas à atteindre la perfection, il ne doit pas abandonner. Mais il doit rester proche de la voie droite. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Quand on dit cela, ça ne veut pas dire que la personne a le choix d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Mais elle ne veut pas se surcharger. Elle ne va pas faire des actes qui vont maintenant l'amener à la difficulté. Il faut y aller progressivement. La personne qui maintenant veut s'engager, par exemple, dans des prières surérogatoires, elle va commencer par ar-rawatib. Elle va commencer par les prières surérogatoires que l'on fait avant et après les prières obligatoires. Si maintenant elle arrive à se maintenir dans cela, alors elle ajoutera quelques unités de prières la nuit, en plus du witr. Si elle arrive à se maintenir dans cela, elle ajoutera alors quelques prières surérogatoires au moment de Duha, et ainsi de suite. Mais de vouloir commencer dès le départ à faire toutes ces unités de prières dans la journée, alors que la personne, sa foi est encore fragile, elle aura de la difficulté à se maintenir. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous enseigne donc un équilibre fondamental entre l'exigence et le réalisme. Le croyant ne doit ni se relâcher, ni se décourager. Il avance, il s'efforce. Il corrige ses manquements et il persévère. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fattakullah mastata'atum » « Craignez Allah autant que vous le pouvez. » Ce qui nous montre que l'effort est demandé en fonction de la capacité, sans que cela n'annule l'exigence de la voie. Et comme on l'a dit, cela ne concerne aucunement les injonctions, les prescriptions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme « Wa'alamu annahu lan yanjwa ahadun minkum bi'amali » « Sachez que nul ne sera sauvé par ses œuvres. » Cette phrase, elle peut sembler surprenante au premier abord, mais elle vient corriger une illusion fréquente, celle de croire que les actes, aussi nombreux ou excellents soient-ils, suffisent à eux seuls à garantir le salut. D'ailleurs, les compagnons, dans leur compréhension fine, ils ont posé immédiatement la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Wala anta ya Rasulallah » Pas même toi, ô messager d'Allah. Pourquoi? Parce que les compagnons, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été pardonné ses fautes passées et à venir. Cela montre qu'ils ont compris la portée générale de cette parole et qu'ils incluent même le meilleur des hommes dans cette règle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. Cela établit donc un principe fondamental. Le salut ne repose pas sur une équivalence entre les œuvres et la récompense. Il n'y a pas d'équivalence entre les actes et la récompense divine, mais sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a donc pas de contradiction entre ce hadith et la parole d'Allah Azza wa Jal que nous avons vu précédemment: Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Car les savants, ils nous ont expliqué que le ba qui est employé dans le verset bima, le ba ici, cette préposition pour ce que vous faisiez, est celle de la cause. Tandis que dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit an yataghammadani Allahu bi rahmatin, ici on voit qu'il y a le même ba, il y a un ba aussi, mais cette particule ici, elle n'a pas la même signification. Ici, elle signifie la contrepartie. Les œuvres sont une cause d'entrée au paradis, mais elles ne sont pas un prix équivalent à la valeur du paradis. Les œuvres sont un moyen par lequel le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est la miséricorde d'Allah azza wa jal qui lui ouvre réellement les portes du paradis. Et c'est pourquoi le croyant ne doit jamais s'enorgueillir de ses actes, ni se reposer sur eux. Ce hadith, il conclut donc ce chapitre de l'istiqama, la droiture, en établissant un équilibre fondamental. Le croyant, il doit s'efforcer dans la droiture, viser la justesse, lutter contre son âme et persévérer, tout en reconnaissant son insuffisance et en espérant la miséricorde de son Seigneur. C'est dans cet équilibre que se trouve la voie droite. Une foi sincère, une pratique constante, un effort réel et un cœur humble, attaché à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, craignant de ne pas être accepté et espérant la grâce d'Allah azza wa jal. Ainsi, la droiture, elle consiste à s'attacher au chemin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a tracé, sans excès ni négligence, sans ajout ni omission. Elle implique de ne pas dépasser les limites, comme l'indique la parole d'Allah Azza wa Jal, « Wala tatraou » et ne transgressez pas. Le croyant ne doit ni s'écarter par la désobéissance, ni dépasser par l'exagération, car les deux constituent des formes de déviation. Et c'est dans ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'u s-subul. » Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Le chemin droit est unique, tandis que les voies de l'égarement, elles sont multiples. Et la droiture, elle consiste précisément à rester sur ce chemin sans se disperser dans l'égarement. La droiture est un chemin délimité, équilibré et précis, qui demande vigilance et constance. Elle n'est pas un état ponctuel, mais une persévérance continue, un maintien sur la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala sans inclinaison à droite ou à gauche. Elle implique également une lutte permanente contre l'âme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ainsi, l'ensemble de ces textes montre que la droiture est un chemin complet et cohérent. Elle commence par la foi, se manifeste par l'action et se maintient par la constance. Et se conclut par la réussite éternelle. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatin wa fadlin minhu. Elle est à la fois une voie à emprunter et une promesse à atteindre. Et celui qui s'y attache avec sincérité trouve la sécurité ici-bas et le salut dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.